ce qui nous permet de passer au chapitre des délégations du conseil municipal au maire. Et donc, pour pouvoir renforcer la continuité du service public et garantir la célérité de l'action administrative, l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales autorise le conseil municipal à déléguer au maire l'exercice de certaines de ses attributions. Et donc, vous avez dans la délibération un certain nombre de délégations qui sont prévues, hein, que je vais vous épargner en lecture, puisqu'il y en a un certain nombre, sachant que, bien évidemment, à chaque fois que ces décisions sont prises, elles sont ensuite communiquées publiquement, et notamment un chapitre spécial à chaque conseil municipal, hein, qui retrace ces délégations qui ont été utilisées. Et donc, il est précisé que les décisions prises par le maire en application de la présente délégation sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal. Et donc, comme je l'évoquais, le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de la présente délégation à chaque réunion du conseil municipal. Est-ce que, du coup, il y a des votes contre ? Oui, madame Magdeleine.
Monsieur le maire, Thibault Philips, chers collègues, cette délibération apparaît à première vue comme une simple délibération technique où le conseil municipal délègue au maire un certain nombre de pouvoirs afin de simplifier la gestion des affaires courantes. Mais la délibération qui nous est proposée ici va bien au-delà de ce qui est habituellement pratiqué. Et je vous invite, chers collègues, chers publics, à consulter la délibération qui avait été prise en juillet 2020. Deux points ont particulièrement attiré mon attention. Le premier concerne la fixation des tarifs des services municipaux. C'est le numéro 2 dans la liste des délégations de pouvoir proposées ici. Nous parlons ici d'une délégation extrêmement large qui permettrait au maire de fixer et de modifier librement, y compris en cours d'exercice budgétaire, l'ensemble des tarifs de voirie, de stationnement, des droits d'occupation du domaine public. Ça, c'est ce qui se fait habituellement. Mais la nouveauté cette année, c'est surtout les tarifs des services publics municipaux, comme les crèches, la restauration scolaire, les activités périscolaires ou encore les centres de loisirs. Et il y a des trois petits points dans la délibération qui laissent entendre que d'autres tarifs pourraient être fixés librement. Je veux rappeler que ces tarifs ne sont pas de simples variables techniques. Ils touchent directement les familles, les enfants, les usagers du quotidien. Et ils traduisent des choix politiques. Accès aux services publics, équité sociale, soutien aux ménages, attractivité de la commune. Et que nous demande-t-on ici ? De vous autoriser, Monsieur Philips, à fixer et modifier librement tous ces tarifs, à tout moment, sans débat, sans vote, sans délibération, et même à instaurer la gratuité pour certaines catégories d'usagers selon des critères que vous définirez seuls. Soyons honnêtes, c'est une délégation qui court-circuite le rôle du Conseil, qui affaiblit la transparence, et qui concentre entre les mains d'une seule personne un pouvoir tarifaire qui devrait rester collégial. On nous dit que tout cela se fera dans le respect des principes d'égalité et de proportionnalité. C'est le moins qu'on puisse espérer. Mais ces principes ne sont pas un garde-fou politique, ce sont des obligations juridiques minimales. Ils ne remplacent en rien la délibération démocratique. Je m'interroge donc très sérieusement. Pourquoi un tel besoin de contourner le débat public ? Pourquoi vouloir modifier les tarifs en cours d'année sans passer par le Conseil ? Pourquoi demander un blanc-seing aussi large, alors que rien n'empêche de présenter chaque année une grille tarifaire claire, transparente, débattue et votée collectivement ? Cette délégation n'est pas une simple mesure technique. C'est un choix politique lourd qui réduit le rôle des élus, qui prive les habitants de visibilité, et qui ouvre la porte à des décisions prises dans l'urgence, dans l'opacité ou sans évaluation préalable. Pour notre part, nous refusons que le conseil municipal devienne une simple chambre d'enregistrement. Nous refusons de renoncer à notre responsabilité collective sur un sujet aussi structurant. Et nous refusons que les tarifs des services publics, qui sont un marqueur fort de justice sociale, puissent être modifiés sans débat démocratique. Monsieur Philips disait dans son allocution tout à l'heure vouloir faire progresser la démocratie. Que ses actes suivent ses paroles. Le deuxième point, qui est le numéro 20, concerne la possibilité de réaliser des lignes de trésorerie jusqu'à 3 millions d'euros. On nous demande aujourd'hui de doubler le plafond des lignes de trésorerie de 1,5 à 3 millions d'euros. Ce n'est pas un simple ajustement technique. C'est un signal fort sur l'état de nos finances. Et j'avais déjà alerté lors du débat d'orientation budgétaire. Une ligne de trésorerie, c'est fait pour absorber des décalages ponctuels, pas pour masquer des tensions structurelles. Et quand on double le plafond, cela veut dire une chose. La commune anticipe des difficultés de trésorerie beaucoup plus importantes qu'avant. Or, ces tensions, ce sont les habitants qui les subissent en premier. Moins de marge pour les services publics, moins de stabilité pour les familles, moins de capacité à protéger les plus fragiles. Comment justifier un tel saut? Quels besoins nouveaux? Quelles projections financières? Quels impacts sur les services essentiels, notamment ceux destinés aux enfants et aux familles? Sans transparence, sans justification solide, nous ne pouvons pas soutenir une délégation aussi large. Parce que la bonne gestion financière, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est une question de responsabilité sociale. Nous voterons donc contre cette délégation et nous invitons chacune et chacun des membres de ce conseil municipal à mesurer ce que cette délibération implique réellement.
Merci. Monsieur Vivet, vous vouliez la parole ?
Oui, merci, monsieur le maire. Il y a un point pour compléter ce qu'a dit madame Magdelaine. Nous avions alerté effectivement pendant la campagne sur la baisse des réserves, sur l'état des finances de la commune qui vont devenir très tendues. Bon, bien évidemment, je vais partager la question sur la hausse de la trésorerie. C'est un modèle qu'on connaît bien, notamment le fait d'augmenter les lignes pour se donner un petit peu plus de souplesse. Mais la vraie question, et vous allez avoir à l'affronter dans ce mandat, c'est que de toute façon, vous l'avez évoqué brièvement sur les finances publiques, il n'y aura plus de cadeaux sur la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux. Ils sont un certain nombre. Infini le siphonnage, comme il s'est passé l'année dernière selon l'ONDAM hospitalier, de 2,5 milliards d'euros donnés par le gouvernement. Et je peux déjà vous l'annoncer, le déficit des hôpitaux sera à 2,8 milliards, ce qui est une trajectoire qui est totalement insoutenable. Donc, plus de cadeaux pour la fameuse CNRCL. Et vous savez qu'on va devoir abonder la retraite des fonctionnaires territoriaux de façon plus importante dans les années qui viennent. Donc, à l'échelle de la commune, bien évidemment, sur les 4 ans, j'avais calculé, ça fait à peu près 1 200 000 euros que le contribuable va payer et qui ne seront, et je le dis en pesant mes mots, assortis d'aucune amélioration du service. Il s'agira simplement d'aligner cette ligne. Le deuxième point, et on y reviendra lorsque nous aurons le budget 2026, c'est la question effectivement des effectifs et de la trajectoire des effectifs de la commune, puisqu'effectivement ils ont considérablement augmenté sur le dernier mandat. Alors il y a des postes qui peuvent se débattre ou s'envisager comme les ATSEM, mais il y a un certain nombre d'autres postes pour lesquels il va falloir les payer en dépenses de fonctionnement. Donc tout ça est quand même très embêtant. Enfin, je reviendrai sur ce qu'a dit Madame Magdelaine. On sait qu'il y a des points de déficit, notamment sur les crèches, et les fêtes, et le fait de pouvoir faire varier, entre guillemets, les tarifs à votre guise, ça sera certainement la tentation d'augmenter les prestations. Mais là aussi, il va falloir travailler en cohérence, puisque logiquement, ces tarifs et ces prestations, nous devrions les aligner avec les financements des caisses d'allocation familiale et notamment leur barème. Donc à un moment, il faudra quand même en passer par un débat de fond sur ces tarifs de façon à la fois pour l'ensemble des habitants avoir une transparence, mais aussi que les politiques publiques se mettent en cohérence. Voilà.
Merci. Alors, pour le coup, par rapport à la délibération qu'on avait prise en 2020, on est dans un cadre beaucoup plus strict, puisque en fait, la délibération de 2020, notamment sur les tarifs, permettait tout. Là, on a resserré le cadre en citant un certain nombre d'éléments, sachant que, bien évidemment, si demain, il devait avoir des modifications substantielles, ça passerait de toute façon en conseil municipal. Ça permet des fois des ajustements techniques. Moi, je pense qu'il ne faut pas pousser des cris d'orfraie. Alors, je sais que ça fait partie de la méthode qui est employée de tout le temps penser qu'il n'y aurait pas de transparence, que tout serait opaque ou autre. Mais de toute façon, même si ça devait être fait, ça serait fait dans un cadre avec une retranscription au conseil municipal. Et pour le moment, je n'ai pas prévu d'augmenter les tarifs municipaux. Donc, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas obligé non plus de se stresser outre mesure, sachant que pour le moment, on devrait profiter de cette belle journée ensoleillée et de se dire qu'on est heureux d'être ensemble et de passer un bon moment. Après, sur la tarification, sur notamment les crèches, de toute façon, le cadre des crèches, il est fixé par la Caisse nationale d'allocation familiale. C'est pas la ville qui fixe la tarification. Donc, de toute façon, on n'a pas de marge de manœuvre sur les tarifications des crèches. Et si le contrat est en déficit, mais ça sera intéressant de pouvoir justement en débattre, c'est parce que en post-Covid, les personnes qui mettent leurs enfants dans les crèches ne prennent plus forcément des contrats de 5 jours comme c'était auparavant le cas. C'est plutôt parfois, on va dire, quelques jours par-ci, quelques jours par-là, parce qu'il y a un renforcement notamment du télétravail qui fait que bah, forcément l'équilibre global du contrat aujourd'hui est un petit peu perturbé par rapport à des changements de vie. Mais le contrat, il n'est pas en déficit parce qu'il n'y aurait pas assez d'enfants ou qu'il y aurait une mauvaise gestion. C'est qu'on a une modification très substantielle de la façon de vivre de nos habitants. C'est un fait. Hein. D'ailleurs, la restauration scolaire, quand on voit qu'on a 47% en plus en périscolaire et en restauration sur les deux dernières années, ça témoigne quand même d'un changement de fond, des pratiques, des modes de garde, du recours au mode de garde collectif, hein, qui était beaucoup moins le cas. On était en Alsace une exception par rapport à la France. Et aujourd'hui, l'Alsace est en train de rattraper. D'ailleurs, c'est vrai partout, dans toutes les communes alsaciennes. Hein. On a vu ces modes collectifs qui ont pris le pas, alors qu'historiquement, on était quand même beaucoup plus fortement attaché, non seulement à tout ce qui était le dispositif familial, hein, notamment les grands-parents, qui ont toujours joué un rôle extrêmement important dans notre région, mais aussi le recours plutôt à des assistantes maternelles. Et c'est vrai que malheureusement, en ce moment, il y a une transformation des pratiques. Et donc, en fait, il faut que le service public adapte son fonctionnement aux transformations de ces pratiques. Mais il y aura de toute façon un débat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose qui est complètement délirant. Et sur les 3 millions de trésorerie, ce n'est pas du tout parce qu'on serait au bout du bout, qu'il n'y aurait plus d'argent, qu'on serait en difficulté, puisque de toute façon, on va pas. Si on a le droit de jouer sur des lignes de trésorerie, encore faut-il avoir l'argent en trésorerie. Donc, c'est pas pour inventer de l'argent magique, hein, je vous rassure. C'est juste parce que la précaution a été prise par les services qui ont travaillé, et que je remercie encore une fois pour leur professionnalisme, de déterminer qu'un mois de trésorerie à la ville d'Ilkirch-Grafenstaden, c'était 3 millions d'euros, notamment pour pouvoir payer les différentes rémunérations de nos fonctionnaires. Et donc, c'est juste une précaution pour que si jamais un jour il y a un décalage, on ne se retrouve pas en difficulté. C'est tout. Et c'est d'ailleurs la même chose qui se passe un peu partout. C'est ce qui se passe aussi dans le monde privé. On prend une précaution. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir aller chercher ce dispositif. Mais vous avouerez quand même que c'est mieux de l'avoir à disposition, parce que si toutefois il devait avoir un petit décalage, je pense que les agents de la collectivité préfèrent être payés quand même au moment où ils doivent être payés. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on aura l'occasion de débattre du budget, puisque le prochain conseil municipal qui aura lieu le 16 avril traitera du budget de la commune. Et donc à ce moment-là, on pourra établir un certain nombre d'éléments qui démontreront quand même qu'aujourd'hui, les ratios financiers sont assez exceptionnel pour la collectivité, et que ça donne des marges de manœuvre quand même sur ce mandat, même si c'est sûr que le contexte national n'est pas tout à fait favorable. Mais malheureusement, comme on n'est pas ici à l'Assemblée nationale, c'est pas nous qui décidons des projets de loi de finances qui sont établis par les parlementaires. Je vous propose du coup de passer au vote sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Parfait. Des abstentions? Je vous remercie.